Éphésiens chapitre 5, on va lire deux versets, puis on ira ensuite dans Colossiens pour lire un autre verset, pour parler de racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Verset 15, il est dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et dans Colossiens, juste deux livres plus loin, chapitre 4, verset 5, Colossiens 4, verset 5, un peu ce texte, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Vous avez compris l'idée, rachetez le temps. Le temps, c'est quelque chose qui passe très très vite, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont jeunes, de plus en plus jeunes, on se rend compte que ça va encore plus vite. Hein, c'est curieux. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons de ce temps, puisque nous en avons quand même pas mal. Hein. Est-ce que tout ce que nous faisons pendant ce temps que nous avons, que Dieu nous donne, est vraiment utile? Puis la vraie question, c'est savoir qu'est-ce que Dieu attend que je fasse avec ce temps, puisque lui, il m'a racheté. On va voir pour quel objectif. On oublie vite, et pourtant, je ne sais pas si vous le saviez, mais Dieu a un emploi du temps pour chacun d'entre vous, pas que pour le pasteur. Ah oui. Il a un emploi du temps pour chacun d'entre nous, le problème c'est qu'on l'oublie bien souvent, ou on l'ignore peut-être. Et donc Dieu a un emploi du temps pour chacun d'entre vous. Et c'est ça, racheter le temps. Racheter le temps, c'est tout simplement soumettre ou se soumettre à l'emploi du temps que Dieu a pour chacun d'entre nous. On va voir un petit peu ce que la Bible nous dit de tout cela. La première chose, quand on réfléchit sur racheter le temps, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes esclaves. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on raconte là? Pourquoi esclaves? D'abord, regardons notre vie. Bien souvent, nous sommes esclaves de beaucoup d'illusions. Le monde surtout est comme ça, esclave de l'illusion, parce que notre vie cherche qu'à posséder, à avoir une place sociale, cherche le matérialisme, cherche le prestige parfois. Bref, le monde, c'est ce que fait le monde, hein, simplement avoir de plus en plus. Et on ressemble un peu à des passoires des fois, parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais satisfait en fait, on n'est jamais rassasié de quoi que ce soit. Et donc, on a toujours besoin, besoin, besoin. Alors, ce n'est pas que le monde, hein. Nous, en tant que chrétiens aussi, on agit comme cela. Et le problème, c'est que nous, on sait que tout ça, c'est futile, théoriquement. On sait qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Mais on a des désirs, et souvent ces désirs nous font perdre beaucoup de temps. Et puis on a la chair, nous dit la Bible, qui est là avec ses instincts, et la chair, elle n'aime pas l'esprit, et elle fait tout à fait le contraire de ce que veut le Saint-Esprit dans notre vie. Et la chair, ben, on y cède assez facilement. On n'est pas encore très fort. Veillez et priez, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que la chair est faible. Mais nous savons toutes ces choses-là. Mais la question, c'est de savoir, par rapport au temps que Dieu me donne, est-ce que je mets tout ça en pratique? Et curieusement, tout ce qui n'est pas spirituel nous attire plus que ce qui est spirituel. Combien d'heures nous passons pour nous, nos loisirs, nos activités, pour moi, tout simplement, et combien de temps je passe pour le Seigneur, pour le royaume, pour l'avancement de son royaume? Question qu'on doit tous se poser. Quels sont nos intérêts? Parce qu'on en a plein des intérêts en tant qu'homme, femme. Mais est-ce que les aspirations du Seigneur sont mes intérêts personnels? Est-ce que c'est mes priorités à moi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et qu'est-ce qu'on fait du temps que Dieu nous accorde encore aujourd'hui? Vous vivez? Vous êtes vivant?
Oui.
Un peu fatigué ce matin, j'ai l'impression. Hein, mais vivant. Et on a encore un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que je pense que quand on arrive au bout, on regardera en arrière, on se dira « mince ». J'ai perdu beaucoup de temps à faire des choses qui ne servaient à rien finalement, et je me retrouve devant le Seigneur, mais là, ça sera trop tard. Donc, première chose à considérer quand on rachète le temps, c'est se considérer que nous sommes esclaves de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec forcément le Seigneur. Par contre, nous pouvons devenir esclaves de Christ, et ça, c'est biblique, parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Le verbe « racheter » rappelle en fait le marché d'esclaves. Hein. En gros, quelqu'un écrivait « c'est racheter par paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre payé par rançon ». Autrement dit, être racheté, c'est être amené hors du marché après paiement de la rançon. Il faut savoir qu'avant d'être chrétien, On était tous, c'est une image évidemment, mais c'est ce que le verbe veut dire, nous étions tous dans un marché d'esclaves sous la domination de Satan, tout simplement. On le savait ou on ne le savait pas, mais en tout cas on était là. Et moi, je ne pouvais rien faire pour payer, pour pouvoir sortir de ce marché, puisque par les œuvres, je ne peux pas être sauvé ou ne plus être esclave de Satan. C'est Christ qui est mort sur la croix, qui a payé la rançon, ou ce qu'il fallait payer pour que moi je puisse sortir de ce marché d'esclaves. Mais quand je suis sorti du marché d'esclaves, c'était pas la liberté, c'était pas de dire maintenant je fais ce que j'ai envie. C'est pour rentrer dans la famille de Dieu en tant qu'esclave de Christ. Alors est-ce que le mot esclave, personne n'aime, hein, parce qu'esclave, on n'a pas envie d'être esclave de quelqu'un. C'est tout simplement être le serviteur, être au service de Jésus-Christ. Donc autrefois j'étais esclave du diable, de mes illusions, aujourd'hui je suis passé esclave de Christ. Mais je ne suis pas libre de faire ce que j'ai envie. On oublie bien souvent ça. Et c'est ça, être racheté par Jésus-Christ. Nous sommes rachetés, nous les élus, et il faut, avant de racheter le temps, considérer le prix que Jésus-Christ a payé pour moi, pour que je puisse sortir de ce marché d'esclaves sous la domination du diable, pour être enfin, on n'est pas que esclaves de Christ, parce qu'il nous appelle aussi ses amis. Hein, et on a un Père là-haut, dans le ciel, on est ses enfants aussi. Mais il faut que je considère d'abord le prix qu'il a payé. Il est mort à la croix pour moi. Vous êtes prêt à mourir pour moi, sur une croix, de trois clous, des souffrances abominables, pour moi, hein? Vous m'aimez pas, hein? C'est dingue, ça. Non, on n'est pas prêt à le faire. Et en plus, à porter le péché encore moins. Mais la Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 7, 22, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » On est affranchi de la coupe du diable, de tout le péché, mais on n'est pas affranchi de devenir esclave de Christ. Mais c'est une joie d'être esclave de Christ, normalement, de lui obéir, de vouloir le servir. On n'est pas libre d'agir à notre guise. Et souvent, la liberté chrétienne, c'est ça. On fait ce qu'on a envie quand on a envie. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit qu'on doit racheter le temps pour être au service du Seigneur. Le temps de l'esclave, à l'époque, ne dépendait pas de lui. « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas envie de travailler pour mon maître. » Vous faisiez ça une fois, vous étiez zigouillé. Le temps de l'esclave dépend donc de l'emploi du temps que le maître donne. Mon emploi du temps dépend du Seigneur, tout simplement. Évidemment, la Bible nous dit qu'il faut aller travailler pour se nourrir. La Bible nous permet de faire un tas de choses. On a quand même une sacrée liberté. Mais qu'est-ce que je fais du reste de ce temps ? Des fois, qui est mal utilisé, j'ai envie de dire. Est-ce que nous prenons le temps d'être à la disposition du Seigneur ? Ou alors, allez, petit jeu vidéo, on va aller faire ce que j'ai envie, ou je ne sais pas. On a mis une façon d'employer ce temps. Mais être à la disposition du Seigneur, ce n'est pas venir que le dimanche matin, ou pour les courageux, le vendredi. Ça, ce n'est pas être à la disposition du Seigneur. C'est chaque jour que je vais être à la disposition du Seigneur. Donc, première chose, avant de vouloir racheter le temps, il faut considérer qui nous sommes et combien nous sommes la propriété de Dieu. La Bible nous dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on se dérobe ? Qu'est-ce qu'on aime bien s'échapper de la main de Dieu ? Mais heureusement que Dieu, des fois, nous rattrape. Mais si je veux racheter vraiment le temps, il faut que je considère que j'appartiens au Seigneur. Je suis à sa disposition, je suis sa propriété, je vais mettre entre guillemets parce que le mot, ça ne serait peut-être pas très joli. Mais je suis là à son service, tout simplement. Il me laisse faire un tas de choses. C'est chouette, quand même. On a une sacrée liberté. Mais en même temps, le reste du temps, il attend quelque chose de moi. Deuxième chose, par rapport à acheter le temps, c'est d'avoir une conduite sage, nous disait Éphésiens tout à l'heure. Prenez garde à votre conduite. Alors, ce n'est pas votre conduite dans la voiture, on est bien d'accord. C'est notre manière de vivre. Prendre garde, le verbe, c'est considérer avec les yeux, posséder la vue ou faire attention. En fait, on devrait un peu se surveiller dans notre manière d'agir, de vivre. Peut-être parfois s'arrêter, faire un bilan sur nous-mêmes et se poser la question, mais quelle est ma conduite par rapport à Jésus-Christ ? Et aussi, cette conduite dans la relation avec la gestion du temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Et comment je me conduis pendant ce temps que Dieu me donne ? Paul dit, ce n'est pas vivre comme des insensés. Ne vivez pas comme des insensés. Le mot veut dire comme des gens qui sont passages, qui sont sots. C'est dur ce qu'il est en train de nous dire. Qui sont insensés, sans exactitude, un peu comme nous voulons, au bon gré de nos humeurs. Le Seigneur ne veut pas que l'on vive comme cela. Il veut qu'on vive en considérant beaucoup de choses. Par exemple, que dans Éphésiens 2:10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les regardions. » C'est ça ? Que nous les pratiquions. Ouais. C'est dire que vous ne connaissez pas le passage. Parce que généralement, on sait que Dieu a un tas de choses pour nous, et on les regarde. C'est beau, hein ? C'est beau la grâce de Dieu, c'est beau le service, c'est beau les dons qu'il veut donner à l'Église, mais on ne fait que les regarder. Il dit pratiquer, mettre en marche. Et il a préparé ça bien avant même que l'on soit né. C'est extraordinaire. Dieu pensait à moi avant même que je sois né, et il savait qu'Emmanuel, tu auras ça comme boulot à faire. Et pour chacun d'entre nous, il a quelque chose à faire. Il y a du boulot dans l'Église. Hein. Il n'y a jamais de chômage, à ce qui paraît. Une autre chose, pour ne pas vivre en insensé, c'est de mettre en pratique le don qu'on a reçu. Romains 12, 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Chacun a reçu un ou plusieurs dons de la part de Dieu. Quel est votre don ? Je ne veux pas savoir. Cherchez. Posez la question peut-être autour de vous. Demandez au pasteur, demandez au responsable, demandez peut-être à quelqu'un. Mais vous avez quelque chose à faire dans l'Église. Ou plusieurs dons, selon ce que le Seigneur a donné. Je le sais, je l'entends, mais je m'en fiche. C'est désobéir à Dieu, tout simplement. Le Seigneur a fait tant de choses pour moi, veut me donner tant de choses, mais bien souvent, j'oublie ces choses-là, et finalement, quelque part, je désobéis à Dieu. C'est vivre en insensé. C'est ne pas comprendre la vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et finalement, on revient dans une vie qu'on avait autrefois dans le monde, tranquillement, et... Oui, bon, le Seigneur, il pardonne, il est plein de miséricorde. Hein. Un petit Dieu, de toute façon, il ne peut rien contre moi. Non, ça, c'est vivre en insensé. Paul appelle à se conduire avec circonspection. Je n'arrive jamais à le dire. Le mot veut dire marcher, mais avec exactitude, soigneusement, scrupuleusement. On doit marcher droit, d'une certaine manière. Mais marcher droit, ce n'est pas marcher selon ma volonté. Je peux marcher droit quand je marche selon la volonté de Dieu. Je veux suivre la voie de Dieu, pas mes voies à moi. Parce que mes voies à moi, je sais très bien qu'elles vont m'emmener n'importe où. Et bien souvent, loin de Dieu. Non, je veux connaître les voies du Seigneur et je veux marcher dans ses voies. Et pour cela, évidemment, il faut lui demander. Il faut les connaître. Il faut savoir ce qu'il veut pour moi. Je ne veux pas me mettre à marcher juste parce qu'il faut se mettre à marcher. Il faut que je sache ce que le Seigneur veut pour moi. Évidemment, ce qu'il veut pour moi est dans la parole de Dieu, tout simplement. Mais je veux marcher avec exactitude, et non pas comme un insensé. On a vu dans Colossiens 4, 5, se conduire comme des sages. Quelqu'un qui est sage ici ? Vous êtes gentil, on va dire. Le mot sage, hein, dans ce sens-là. Mais sage, je ne pense pas que nous le soyons, et pourtant, on nous demande de vivre de façon sage. Si vous n'avez pas de sagesse, Jacques nous rappelle qu'on peut demander, et vous recevrez. Donc si vous ne considérez pas sage, ben vous avez la responsabilité de demander tout à l'heure à Dieu d'être sage, tout simplement, sans douter, parce que sinon c'est comme quelqu'un qui est emporté à droite et à gauche. Mais quand j'ai besoin de sagesse, je peux la demander à Dieu, et Dieu l'accorde. C'est formidable quand même, non ? Il aurait pu dire, écoutez, vous me fatiguez un petit peu, hein, vous débrouillez, voilà, vous faites avec ce que vous avez. Non, le Seigneur sait qu'on a des fois des difficultés, des manques, et il est là pour nous les accorder. C'est extraordinaire. Hein. Et parfois, nous sommes sages. On est content d'être sages des fois, hein. Mais on est rarement sages. Mais se conduire avec sagesse selon un modèle. Romains 16, 27 dit, puisque nous avons... Romains 16, 27, à Dieu seul sage... soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Un seul modèle de sagesse dans ce monde, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et évidemment, pour savoir ce qu'est la sagesse, il faut que je connaisse Dieu, que je connaisse ma Bible, toute la Bible, pas juste une partie, parce qu'on sera seulement à moitié sage, un dixième de sagesse seulement dans notre vie. Alors, vous avez la chance, vous avez encore du temps pour la lire. Prenez le temps, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez voir comment Dieu, lui, agissait, comment Jésus-Christ a agi vis-à-vis des ennemis, vis-à-vis de toutes les personnes, combien il était parfaitement sage. Et quand j'ai le modèle, enfin, là, je peux me mettre à imiter, tout simplement, ce modèle de sagesse. On peut se conduire comme des sages en se calibrant avec la parole de Dieu. De Timothée 3,15, dès ton enfance, hein, on parle de Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée avait la chance d'avoir une maman et une grand-mère qui lui ont appris la parole de Dieu, tout simplement, et ça produit une forme de sagesse dans sa vie. Le pasteur dit toujours qu'il faut lire la Bible, c'est pas parce qu'il faut la lire, on peut lire n'importe quel bouquin, mais ça a un impact dans notre vie. Ça produit la sagesse. Ça offre des pistes vis-à-vis de la sagesse. Et quand on vit avec sagesse, on se fait moins de mal. On fait moins de mal à l'autre. Et finalement, on est heureux. Vous aimez être heureux ? Ah, l'argent rend heureux. Hein. Belle maison rend heureux. Mais ça rend heureux rapidement. Mais vivre la sagesse de Christ, vivre selon les voies de Christ, ça rend réellement heureux. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais en pleine dépression et je ne savais pas ce que c'est être heureux. J'étais heureux comme le monde est heureux. Hein. Mais quand on découvre la joie de Christ, alors là, ça n'a rien à voir avec ce que le monde peut nous proposer ou nos joies qu'on avait connues avant. Ça change complètement la vie. Se conduire avec sagesse au quotidien, Jacques 3, 13 dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » On est appelé à se conduire tous les jours avec de la sagesse. Et ça va se démontrer dans nos choix que l'on va faire. On va voir si vous êtes sage ou pas. Est-ce que je dois acheter une voiture avec les moyens que j'ai ou une super Lamborghini parce que j'ai envie de frimer avec après ? J'exagère peut-être, mais on peut peut-être réduire des fois la manière d'agir et le manque de sagesse que nous avons des fois dans notre vie. On va voir notre sagesse dans les choix que l'on fait, dans les relations. On voit si quelqu'un est sage, souvent. Et sage selon Dieu, surtout. Et 1 Corinthiens 3, 18 nous dit que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, c'est-à-dire comme le monde, qu'il devienne fou afin enfin de devenir sage. Le monde se croit sage, hein. Nos autorités se pensent sages, beaucoup de gens pensent être absolument sages, mais en fait, ils sont fous, complètement. Hein. Mais ils nous regardent, nous qui connaissons la sagesse de Dieu comme étant fous. Mais nous, on sait qu'on n'est pas fous. On sait très bien que quand on obéit à Dieu, ça fait du bien à nos choix, à notre façon de vivre. La sagesse de Dieu est complètement différente de la sagesse de l'homme et du monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être transformés, changer notre volonté, changer notre cœur, notre âme, notre façon de penser, de réfléchir. On a besoin d'être toujours transformé pour devenir tout doucement sage selon le Seigneur. Racheter le temps, c'est donc marcher selon le modèle divin, pas d'autre modèle. Désolé, hein, j'aurais bien voulu trouver autre chose, mais c'est comme ça que la Bible dit. Mais aussi, et c'est une troisième chose, comprendre qu'il y a une époque aussi, il y a une urgence par rapport à cette époque. Ce que disait Paul dans Éphésiens, les jours sont mauvais. Ouvrez votre poste de télé, écoutez à la radio, tout va bien dans le monde. Hein. Pas vraiment la joie. En France non plus, c'est pas vraiment la joie. Les jours sont mauvais, et il dit ça il y a 2000 ans. Hein. Donc les jours depuis sont devenus encore plus mauvais, je pense. Bon, à l'époque, il y avait la persécution. Mais les temps vont être de plus en plus mauvais. C'est ce que nous dit la Bible. Parce que les jours, au fur et à mesure, sont dominés par la puissance du malin. Qui lui prend de plus en plus autorité dans ce monde. Et on voit bien que le diable est en plein travail. Il lui reste peu de temps, hein, comme dit la Bible, et donc forcément, il s'affole. On voit ce prince des ténèbres qui est très imaginatif, puisqu'il invente l'œcuménisme. Toutes les religions se valent, et donc tout le monde s'aime, et puis Dieu, on s'en fiche complètement, à condition qu'on s'aime. Il imagine le mondialisme pour qu'un jour, il puisse placer l'Antichrist, tout simplement, à sa tête, et puis gouverner le monde et se prendre pour Dieu lui-même. Il est plein d'imagination, le diable. Il est imaginatif aussi par rapport à l'Église, puisqu'il attaque les croyants. On parlait tout à l'heure de découragement. C'est la plus belle des armes que le diable a vis-à-vis du chrétien, vous décourager. Il ne va jamais vous attaquer frontalement, mais il va travailler tout doucement dans votre cœur, pour que vous lâchiez tout doucement, et qu'à un moment, je suis fatigué, j'en ai marre. C'est comme ça que le diable travaille. Et il attaque aussi l'Église, puisque aujourd'hui, des églises, il y en a en veux-tu, en voilà, mais avec du n'importe quoi, bien souvent. Et tout ça, ça se dilue. Et le diable, lui, il est content. De toute façon, les gens ne lisent pas la Bible, donc je peux dire ce que j'ai envie. Personne ne va vérifier. On accuse les catholiques, bien souvent, d'avoir empêché les gens de lire la Bible. Aujourd'hui qu'on peut la lire, les chrétiens ne la lisent pas. On est bizarre, quand même, hein, des fois. Mais le diable, lui, est au travail tous les jours. Et moi, chrétien, je suis pas trop au travail. Je vais y aller pépère, hein, mais vous savez, le diable prend tranquillement du terrain parce que nous, nous relâchons, tout simplement. C'est des jours mauvais pour le croyant parce que nous, en France, on est dans le confort. Ne dites pas qu'on n'est pas dans le confort, même si vous n'êtes pas riche, on est dans le confort. Mais le confort va pousser l'âme à s'assoupir. C'est bon de dormir, hein, parce que tout va bien. Oh, de temps en temps, une petite crise, une petite épreuve, mais tout va bien. Puis on s'endort tout doucement, spirituellement. Bon, on est chrétien, hein, on va de temps en temps à l'église le dimanche, mais on s'endort tout doucement. Puis, parce que je m'endors, eh ben, ça devient une habitude. C'est bien d'être au lit, hein. C'est bien de dormir. Et quand on dort, on n'a pas envie de lire sa Bible. On a vu tout à l'heure, on n'a pas envie de prier, parce qu'on est fatigué, on s'endort. On n'a pas envie de servir. Puis à un moment, pas obligé d'aller au culte tous les dimanches, hein. Je suis fatigué, moi. Ah ouais, mais ça, c'est notre confort qui le crée. Imaginez qu'il y ait une persécution. Ça changera tout. Votre façon de vivre, etc. Puis ce sommeil qui a créé des habitudes va changer nos priorités finalement, parce que tout va bien de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc mes priorités vont changer, et puis à un moment on arrive même à se dire, est-ce que Dieu a vraiment dit d'aller à l'église? Il a dit ça où dans sa Bible? Parce qu'on s'est endormi à ce point-là. Et beaucoup de gens en sont dans ce stade, hélas. Et puis après, c'est les compromis qui arrivent. Parce que entre ce que je connais de Dieu et ce que j'ai envie de faire, ben, le compromis va devenir naturel, facile. Hein? Parce que quand on ne va pas une fois à l'église, on va se dire, bon, c'est pas grave, ça peut arriver, évidemment. Deuxième fois, non, ça va, mais après, on prend l'habitude. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas être nourri. Il ne va pas recevoir la communion fraternelle dont il a besoin. Et finalement, ben, tout doucement, il enfonce les chrétiens. Et c'est ce qui se passe tout simplement aujourd'hui. Dieu devient une option, voire une tradition parfois pour certains, mais je ne pense pas que ces gens soient nés de nouveau. Mais Dieu ne doit pas être une option dans notre vie de chrétien, loin de là. Les jours sont mauvais, et ça va devenir de plus en plus facile de lâcher tout simplement le Seigneur en se disant « je suis un vrai chrétien ». Ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Mais les jours sont aussi mauvais à cause du refus de l'Évangile. On le sait, le monde aujourd'hui ne veut pas de la bonne nouvelle. Il nous refuse, comme nous autrefois. Et ce qui est terrible, c'est que chaque jour, aujourd'hui, l'enfer grandit encore un peu plus. Combien de milliers de personnes vont se retrouver aujourd'hui, après leur mort, en enfer? Je ne sais pas si on prend le temps d'y réfléchir des fois. Alors, c'est évidemment leur responsabilité. Mais peut-être qu'il manque des héros. Héros, pas H-E-R, mais héros, celui qui proclame. Celui qui annonce tout simplement la bonne nouvelle. Tout simplement parce que les chrétiens fatigués dont on a parlé tout à l'heure, un peu assoupis, ils n'ont pas trop envie de parler de Jésus-Christ, hein, là où ils sont. Fatigués, hein. Oui, parler de Jésus. Arrêtez de m'embêter. Hein. Ben oui, mais si les chrétiens ne parlent plus de Jésus-Christ, si on n'est pas ambassadeur de cette réconciliation, comme dit Paul, eh bien en face, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, et forcément, ils ne vont pas se convertir. Ils ont leur responsabilité, mais nous avons aussi notre responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Et le problème de l'Église aussi, c'est souvent qu'on manque de connaissances pour transmettre la bonne nouvelle. Des fois, on a peut-être envie de parler de Jésus, mais je ne sais pas quoi dire. C'est qui Jésus? C'est quoi la Bible? J'exagère peut-être un petit peu. Mais des fois, on vous pose des questions et je ne sais pas quoi dire. Et c'est des choses simples, souvent. On ne va pas vous parler d'infralapsarianisme quand vous conversez avec quelqu'un. Vous ne savez pas ce que c'est, mais venez voir après. C'est rigolo. Mais on manque de connaissances et forcément, on a du mal à transmettre et on devient timide. Mais on a la chance, et quelqu'un faisait un calcul, de pouvoir apprendre. Nous avons tous 52 semaines dans l'année, non? Oui. 52 semaines, il faisait le calcul, selon les églises, hein, on a... de trois réunions, on va dire trois réunions par semaine, ça fait 156 rendez-vous en commun, normalement. Il fait un calcul. Si je viens deux fois par mois à l'église, ça fait 2 fois 12 égale 24 fois, d'accord? Si on retranche ça au nombre de rendez-vous qu'on a normalement, il nous a manqué 132 rendez-vous dans une année. C'est-à-dire 132 prières non faites, peut-être, à l'église, hein, je ne parle pas seul. 132 enseignements qui vont rester inconnus pour moi, et donc que je ne vais pas pouvoir transmettre. 132 communions fraternelles que je me refuse. Vous imaginez le gâchis, quelque part? Ce n'est pas pour vous faire venir plus. Je veux qu'on ait conscience du gâchis. Il continue en disant, nous avons 365 jours. Alors, selon les années, il s'extile. Hein, 365 jours pour avoir un rendez-vous personnel avec le Seigneur en lisant la Bible, en priant. Soit la possibilité de lire 365 chapitres de la Bible en un an. Vous savez qu'il y en a 1189 dans la Bible. Donc, on ne lit pas grand-chose. Soit 365 intercessions pour moi, pour la famille, pour les amis, pour les perdus, pour tout ce que notre frère tout à l'heure a partagé au travers de la prière. Toutes ces choses-là, on devrait les faire régulièrement. Mais si je lis ma Bible une fois par semaine, ou si je prie une fois par semaine, c'est lire et prier dans l'année 52 fois. Donc, je loupe 313 rendez-vous avec mon Seigneur dans l'année. C'est terrible quand on y réfléchit. Souvent, nous vivons en regardant notre semaine. C'est pas grave si j'ai pas lu aujourd'hui, mais il faudrait voir sur l'ensemble. Et là, je ne vous fais même pas l'ensemble d'une vie, parce que je ne sais pas quand vous allez partir, évidemment. Mais c'est intéressant ce qu'il écrit. « Si déjà ceux qui sont fidèles dans ces domaines et qui le font régulièrement ont du mal à vivre leur vie spirituelle, alors imaginez les autres qui ne le font pas régulièrement. » Et après, on se demande pourquoi ça ne va pas dans notre vie. Pourquoi on est découragé, pourquoi on est mort spirituellement. C'est tout simple. Le Seigneur a un emploi du temps. Dans cet emploi du temps, il a dit « Je veux avoir rendez-vous avec toi ». Personnellement, tous les jours, je veux avoir rendez-vous avec tous les chrétiens régulièrement dans l'Église. Si on ne fait pas ça, nous nous appauvrissons spirituellement, nous nous décourageons et nous ne pouvons pas transmettre ensuite l'Évangile, tout simplement. On aura, à mon avis, des reproches de la part du Seigneur un jour quand on sera en face de lui. Je parle en tant qu'Église, tout simplement, parce que, vous savez, Paul, lui, il évangélisait et il avait peur d'être disqualifié. Vous avez peur d'être disqualifié ou vous en fichez ? La grande question, hein. On est loin d'être Paul. Il n'y a personne qui a eu quoi, même pas moi. Hein. Mais je pense qu'il y a à réfléchir là. Racheter le temps, c'est organiser son temps pour proclamer l'Évangile. Hein. Ma sécheresse spirituelle, comme on l'a dit, ben, elle ne va pas permettre d'arroser les perdus. Mes collègues de travail, mes amis, ma famille peut-être même. Je suis un modèle pour eux, soi-disant. Mais si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, ils n'auront pas de modèle quelque part. Quel est le témoignage que je laisse autour de moi ? Est-ce que les gens sont motivés à connaître Jésus-Christ ? Évidemment, il y a ceux qui n'ont pas envie de connaître Jésus-Christ. Hein, bon. Mais on peut les attirer par notre manière de vivre, avec cette sagesse qu'on a des fois dans le travail, de ne pas faire les bêtises que le patron ou d'autres demandent. Hein, c'est bizarre, c'est pas comme le monde. Hein, c'est curieux. Ben oui, mais parce que je suis chrétien, tout simplement. Moi, je veux obéir au Seigneur. Je veux agir selon ses commandements à lui. Et là, forcément, ça va attirer et ça donne un témoignage. Racheter le temps, selon la Bible, c'est mettre le royaume en priorité. Le Seigneur, on l'a dit, nous laisse le temps de travailler, le temps de se reposer, le temps de faire des loisirs, mais il y a le reste qui est souvent gâché. Et c'est là où le royaume devient la priorité, pour faire connaître le témoignage de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre, pour nous rassasier nous-mêmes, hein, dans la parole et dans la prière, mais aussi pour témoigner autour de nous. Racheter le temps, c'est être sensible au monde qui est en train de se perdre. On vit notre vie à fond, mais on oublie bien souvent qu'on a une mission de la part du Seigneur, s'intéresser à ceux qui sont autour de nous et à utiliser notre temps le mieux possible. Un jour, on sera devant le Seigneur, hein, et chaque jour, il va dire, mais là, qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai laissé du temps pour certaines choses, mais qu'est-ce que tu en as fait ? Là, c'est facile de le dire, mais quand on sera devant le Seigneur, on sera peut-être moins fier, peut-être, de nous. Mais là, ça sera trop tard aussi, c'est ça le problème. Le Seigneur nous laisse quand même beaucoup de liberté, je pense, mais il faut racheter le temps. Et une quatrième chose qu'on apprend dans ces versets, c'est que racheter le temps, c'est comprendre la volonté du Seigneur. Je ne peux pas racheter le temps si je n'ai pas compris ce que Dieu veut pour moi. Il dit, Paul, ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire sans raison, sot, stupide, sans réflexion ou sans intelligence. Il est dur, hein ? Si moi je vous disais ça, vous diriez, oh, arrêtez de me parler comme ça, hein ? Je ne vais pas me parler comme ça. C'est la Bible qui nous dit que des fois nous sommes inconsidérés, sots, à employer mal peut-être notre intelligence et notre temps. Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous vivons égoïstes. Moi, je suis sauvé. C'est réglé, tant pis pour les autres. On ne le dit pas comme ça, évidemment. Ce serait vraiment cruel si vous le dites. Mais comme je suis sauvé, ben, je ne prends pas trop le temps pour les autres. Je ne vais pas témoigner. Ne pas être inconsidéré, ou être inconsidéré, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Ça veut dire ne pas tenir compte, par exemple, de ces versets, de racheter le temps et de tout ce que dit la Bible. Nous savons beaucoup de choses de la Bible, certainement, mais peu de choses sont mises en application. On n'agit pas. On sait, c'est intellectuel. Le Seigneur ne veut pas que ça reste dans la tête, que ça tombe dans le cœur. Et quand ça tombe dans le cœur, ben on se met à travailler. C'est bien souvent vivre loin de la volonté de Dieu que de vivre en tant qu'inconsidéré, hein, ou quelqu'un d'insensé. Et quand je ne vis pas la volonté de Dieu, je désobéis, tout simplement. Et ça s'appelle le péché, tout simplement. Alors, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait au top niveau de tout ça. On est bien d'accord. Mais on doit avancer, quand même. On doit progresser dans cette obéissance à notre maître, parce que, souvenons-nous, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes son esclave. C'est pas le pote, c'est pas le copain. C'est mon maître, Jésus-Christ est mon maître, et je suis à son service, tous les jours. Comprenez la volonté, dit Paul, la volonté du Seigneur. Comprendre, c'est un effort. D'accord que ça ne se fait pas naturellement de lire la Bible, de prier, de venir à l'église. Il y a toujours un effort. Et surtout, comprendre ce que Dieu veut. J'aimerais bien avoir toute la compréhension de la volonté de Dieu une fois intégrée dans mon cerveau. Pas seulement, mais mise en application. Ça s'appelle la glorification. C'est quand on sera parfait dans le ciel. Mais on peut quand même y tendre et faire l'effort d'essayer de comprendre. Le mot comprendre, c'est avoir l'intelligence. Faire un moment de réflexion, c'est savoir s'arrêter de temps en temps pour se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu dans ma vie exactement? Je sais qu'il ne veut pas que je vole, que je ne tue pas, que je sais, mais il n'y a pas que ça. Il y a des milliers de choses dans la parole de Dieu que le Seigneur voudrait que l'on connaisse. Mais il faut que je fasse l'effort pour les connaître. Et cet effort, ce n'est pas un effort le dimanche, c'est tous les jours. Tous les jours, et peut-être je dirais même toute la journée. Parce que des fois, moi je me souviens dans mon travail, j'étais face à des choix. On me demandait de tricher. Pas envie de perdre mon travail, hein. Il était rare en plus là où on était. Mais le Seigneur m'a aidé. On voit aussi que Dieu est avec nous quand on lui obéit, tout simplement. Mais il fallait que je connaisse la volonté de Dieu à ce moment-là pour savoir quoi faire dans cette situation-là. Et il faut faire l'effort, justement. L'effort se fait en amont, pas dans la situation. Bon, ça peut arriver. Mais si je commence à connaître la volonté du Seigneur avant que les situations arrivent, elles seront plus faciles à gérer. Si je ne savais pas que le Seigneur ne voulait pas que je triche dans mon travail, j'aurais triché comme les autres, et ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais ça n'aurait pas été convenable devant Dieu, tout simplement. Mais je le savais, parce que j'avais inversé la balance du juste. Rester injuste. C'est un verset qui, je crois, c'est dans le Proverbe Ecclésiaste. Et ça m'était resté dans le crâne. Et on me demandait justement de tricher dans ce domaine-là. Mais bon. Comprendre la volonté de Dieu, c'est un effort quotidien, constant. Et comprendre la volonté du Seigneur, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut qu'on applique sa volonté dans nos vies. Pour cela, il faut la connaître, évidemment, mais c'est le grand désir de Dieu pour nous. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? On a des choses toutes basiques, on va dire, etc. Mais il veut qu'on lui obéisse. Il veut qu'on rachète le temps. Il veut qu'on soit ses esclaves fidèles, serviteurs fidèles, à son service. C'est ça le désir de Dieu pour nous, tout simplement. Évidemment, il faut le connaître, mieux le connaître. Alors, on va se poser la question, mais comment trouver la volonté de Dieu? Par exemple, dans Éphésiens 5, 18 à 21, il est juste écrit ces quelques versets, il dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire de vin de temps en temps, je vous rassure. Il s'agit de ne pas être saoul. « C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. » Bien souvent, nous, on reprend le verset et puis on est rempli de TV, Facebook, YouTube, séries. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce quotidien façonne notre âme. Parce que si vous êtes rempli de l'esprit, vous vous entretenez par des psaumes, ça fait du bien dans le cœur. YouTube, ça ne fait pas trop de bien, bon, sauf si vous écoutez les prédications, évidemment. Si vous entretenez votre vie par des hymnes, des cantiques spirituels, si vous chantez, vous célébrez Dieu, vous avez la reconnaissance tout simplement. Vous rendez continuellement grâce, vous remplissez votre cœur de quelque chose qui va produire quelque chose dans votre vie. Mais le monde est tellement présent autour de nous et finalement on se laisse remplir par toutes ces choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas écouter de la musique, ce n'est pas ça, on est bien d'accord. Mais s'il n'y a que ça dans notre vie, ben forcément à un moment on se dessèche tout simplement spirituellement. Mais juste dans ces cinq versets, on lit, on apprend la volonté de Dieu pour nous. Il faut être rempli de l'Esprit. Ça veut dire, je veux être obéissant à Dieu. Je dois me laisser guider par le Seigneur. On apprend qu'il faut célébrer Dieu. C'est un effort, mais le Seigneur aime bien quand on le glorifie. On apprend qu'il faut être reconnaissant. Bien souvent, on n'est pas reconnaissant. On est plutôt en train de bouder. Mais on apprend aussi qu'il faut de l'humilité. 5 versets, 5 leçons. Vous imaginez déjà faire ça à la perfection? Je crois que personne ne le fait. Mais pour ceux qui sont un peu plus friands, vous avez le reste de la Bible pour savoir ce que Dieu veut, tout simplement. Mais en quelques versets déjà, on peut savoir ce que le Seigneur veut pour moi. On connaît sa volonté. Évidemment, il faut l'ouvrir. Évidemment, il faut la lire. Et cette volonté de Dieu, elle n'est pas seulement pour le pasteur, ou pour ceux qui servent peut-être dans l'Église, et qu'on voit, elle est pour tous les chrétiens, tous. Que vous veniez d'être né de nouveau, que vous soyez un vieux chrétien, un vieux briscard, on dit, pour tout le monde, cette volonté de Dieu est là. C'est la mission de tous, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut que j'aie une relation avec Dieu, il veut que je prenne du temps de lire sa parole pour apprendre à le connaître, il veut que j'aie une relation dans la prière parce qu'il veut me parler, parce que moi j'ai besoin de lui parler, parce qu'il veut simplement être avec moi, parce qu'il m'aime, c'est génial. Et il veut aussi cette relation avec l'Église. Tout ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Et c'est tellement important d'abord pour moi, parce que ça va façonner ma vie chrétienne, mais c'est important pour l'autre aussi, et dans l'Église, mais hors de l'Église. Parce que si moi, je suis desséché, je ne vais pas annoncer la bonne nouvelle aux autres. Je vais avoir plutôt une sale tronche vis-à-vis des autres. C'est une métaphore, évidemment. Donc c'est important pour moi de connaître cette volonté, parce que ça me fait du bien, parce que j'ai envie de la mettre en pratique, mais aussi parce que ça aura certainement un impact sur ceux qui me connaissent et quand je vais évangéliser. Racheter le temps, c'est appliquer les directives du Seigneur dans notre vie. C'est pas se dire « peut-être, peut-être pas, j'ai pas envie aujourd'hui ». Un esclave ne se dit jamais ça. Il obéit, tout simplement. De temps en temps, il se rebelle. Je sais pas s'il y a des syndicats chez les esclaves. Mais on se comprend, on n'est pas des robots, évidemment. Le Seigneur a besoin de nous transformer. Mais voilà, je suis ton serviteur, Seigneur, tu es mon maître. Et je suis à ton service. Tu me laisses du temps pour travailler, pour me nourrir, pour dormir, pour faire des loisirs. Mais voilà, il y a encore du temps, normalement, pour toi. Sauf si j'arrive plus à trouver du temps pour lui, alors c'est qu'il faudrait peut-être réduire d'autres choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais c'est important pour nous, et c'est important pour Dieu aussi. Pour terminer, peut-être l'occasion de faire un bilan pour chacun d'entre nous. Considérer notre vie. Pas avec mes yeux, ou avec les yeux peut-être de mon conjoint, de mes amis, ou je ne sais pas quoi, mais peut-être avec les yeux de Dieu. Parce que souvent, on s'évalue avec nos propres sentiments, avec notre propre considération. Si on était devant Dieu, il ne dirait pas la même chose du tout. Jésus ne nous évaluerait pas de la même manière. Et à nous, justement, de nous mettre devant Dieu et se dire, moi, Seigneur, regarde ma vie. Où est-ce que j'en suis vraiment avec toi? Sois honnête avec moi. Peut-être que je ne prends pas assez de temps pour toi, à l'Église, personnellement. Mais montre-moi, tout simplement. Fais un bilan dans ma vie. Et ça, ça va pousser à nous humilier devant Dieu. Et celui qui s'humilie devant Dieu, eh ben, fait sa joie. Quand on s'humilie, évidemment, on va parler de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et on a tous quelque chose à nous reprocher, évidemment. Mais on veut s'humilier parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Non pas parce que Dieu va nous écraser. Au contraire, celui qui s'humilie, c'est celui qui est élevé, généralement. C'est celui que Dieu aime. Cherchons une conduite qui est sage, surtout au milieu d'un monde qui est de plus en plus mauvais. Et c'est tellement difficile, même en tant que chrétien aujourd'hui, d'être sage, parce qu'on a une telle pression autour de nous, parce qu'on apprend aussi du monde et qu'on ne fait pas le tri bien souvent, mais ce n'est pas évident d'être chrétien aujourd'hui. Mais encore, vous avez de la chance, parce qu'en France, tout va bien. Je disais ce matin, il y a une jeune fille au Pakistan, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, qui a juste bu à un puits de musulmans, et à cause de cela, parce qu'elle est chrétienne, elle va être pendue. Alors, il y a le procès, elle a été acquittée, mais les musulmans ont fait tout un machin pour la pendre, tout simplement. On a une belle vie, non? Ça va? Vous n'allez pas vous faire pendre tout à l'heure. Ça fait mal, hein? Donc, cherchons à avoir une conduite sage dans ce monde, plutôt que vivre la futilité, parce qu'on sait ce qui est futile au fond de nous, on le sait très bien. Hein. Plutôt que de vivre la futilité, cherchons plutôt la volonté de Dieu et l'avancement de son royaume. À la fin de notre vie, à la fin des temps, la seule chose qui va rester, c'est pas YouTube, c'est le royaume de Dieu. Dans quoi j'ai envie d'investir ? YouTube, Facebook ou le royaume de Dieu ? Parce qu'au bout, de toute façon, c'est le royaume de Dieu qu'il y aura. Je ne sais pas s'il y aura YouTube dans le ciel, on verra bien. Mais il faut que je me focalise sur ce que le Seigneur veut et ce qu'il va rester finalement sur cette terre au bout de tout. Racheter le temps, nous dit Paul, parce que le temps est si court, parce que le temps est tellement, tellement précieux. Prions. Seigneur, pardon, parce que bien souvent nous ne rachetons pas le temps, nous perdons énormément de temps à faire des choses qui ne sont pas forcément à ta gloire, ou pas forcément, mais pas forcément à être cet esclave avec un maître, être à disposition du Seigneur pour le servir, être à disposition dans la relation qu'il veut avec chacun d'entre nous. Pouvons que nous humilier devant toi, Seigneur, parce que personne n'est parfait ici, Seigneur. Mais tu es bon et tu es merveilleux, et par ta parole, tu nous rappelles que nous devons faire ce bilan, réfléchir à ce que nous faisons avec le temps, pour pouvoir tout simplement te le remettre. Reprends-nous, Seigneur, si nous avons besoin d'être repris. Montre-nous quelle est ta volonté, comme dit Paul, pour que nous puissions enfin mieux te connaître, mieux agir, devenir vraiment sages, pour pouvoir vivre tout simplement en paix, faire les bons choix, Seigneur, pour notre vie. Et comme on l'a dit, parce que tout cela aura aussi certainement un impact pour ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Apprends-nous à racheter le temps à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.